Paris Culture, présenté par Quentin Perquis, un samedi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris.
Bonjour, bienvenue, nous sommes le samedi 10 février, 4 jours avant la Saint-Valentin. Vous écoutez Paris Culture, le moment parfait pour connaître les bons plans pour ce week-end et peut-être pour mercredi également. Aujourd'hui, je vous emmène au théâtre. Je vous présente la comédie Haute Tension. Elle se joue au Café de la Gare. Et à cette occasion, je vous offre deux places pour cette pièce. Je vous donne plus d'infos plus tard dans l'émission. Dans les idées de sortie à Paris, je vous parle notamment de la programmation du festival Essonne en scène, la prog qui est sortie tout récemment. Et puis, côté ciné, je vous parle du drame Green Border. Et enfin, Thomas nous a préparé une délicieuse sélection. Il s'exprime sur les deux plus grandes cérémonies que le monde de la musique peut nous offrir. Aujourd'hui dans le studio, on a de la chance, on a du public. Bonjour à vous, comment allez-vous ?
Bonjour.
Vous allez bien ? C'est la première fois pour la radio pour vous ?
Oui, ouais, première fois.
Quel effet ?
Stressant.
Ouais, très sympa aussi, un peu stressant quand même.
Mais sympa, on est en direct, c'est ça qui est cool.
C'est cool.
Jeanne et Manon qui sont avec nous aujourd'hui pendant une heure pour suivre en temps réel les actus de l'émission. Tout se passe sur mon Insta, Quentin-du-bas Perquis. Tout de suite, voici l'état du trafic en temps réel. Jingle. Si vous êtes sur les lignes de transport au niveau de la RATP, moi je vous informe vite fait ce qui se passe en tout cas sur les lignes de métro. Sachez que sur la ligne 5, le trafic est perturbé. Jusqu'au 17 avril, la station Gare d'Austerlitz n'est pas desservie en raison de travaux. Il faut également savoir que sur la ligne 8, le trafic est actuellement interrompu entre Reuilly-Diderot et Pointe-du-Lac en raison d'un incident technique à Créteil. Et également, sachez que sur la ligne 9, le trafic est perturbé. Le train stationne à Exelmans en direction de Pont-de-Sèvres en raison de personnes sur les voies. Et il faut également savoir que le trafic sur la ligne 9 est perturbé sur l'ensemble de la ligne. Et voilà un petit peu pour le tour des métros. Sachez que si vous voulez savoir plus d'informations sur ce trafic, vous pouvez vous rendre sur l'application Bonjour RATP, également sur le site internet ratp.fr/info-trafic. Juste avant de parler des sorties au ciné, on revient ensemble sur une actu de la semaine, une actualité qui n'a pas vraiment fait la une mais qui a toute son importance. Écoutez. D'après le site vie-public.fr, le travail de plateforme est difficile à analyser du fait de la diversité des métiers. Mais qu'est-ce que le travail des plateformes ? Il s'agit du travail réalisé par l'intermédiaire de plateformes numériques ou applications chargées d'organiser l'articulation entre l'offre et la demande de biens et de services. Bon, ça, c'est la définition. S'il existe, entre guillemets, une définition, les situations des travailleurs de ces plateformes-là, justement, sont très diverses. Toujours d'après le site vie-public.fr, la nature des prestations sont multiples, variant du micro-travail au peu qualifié aux prestations de conseils d'experts. Et les modes également d'organisation sont très divers. Les conditions de travail sont différentes dans une coopérative ou en freelance. Cette diversité se retrouve aussi dans les conditions d'emploi, micro-entreprise, travail indépendant, salariat. Et puis, pour améliorer les conditions de travail de ces personnes, députés européens et États membres ont trouvé un accord ce jeudi 8 février dernier. Ouest France indique que grâce à cet accord, je cite, « les employés ne pourront plus être licenciés par des systèmes automatisés et la charge de la preuve incombera à la plateforme pour prouver que la relation contractuelle n'est pas une relation hiérarchique de travail. » Fin de citation. Plusieurs pays, dont la France, avaient rejeté fin décembre une précédente version de ce texte. Olivier Dussopt, ministre français du Travail alors en place, avait annoncé, je cite, « quand vous allez vers une directive qui permettrait des requalifications massives, y compris de travailleurs indépendants qui tiennent à leur statut d'indépendant, nous ne pouvons pas la soutenir. » Fin de citation. BFM TV annonce, je cite, « la Commission européenne estime à au moins 5,5 millions, sur un total de près de 30 millions, le nombre de travailleurs de plateformes enregistrés à tort comme indépendants et donc injustement privés des avantages sociaux du salariat. » Fin de citation. Le texte mentionné à l'instant sera soumis au vote le 16 février prochain. N'hésitez pas à réagir sur ce sujet avec X, avec l'hashtag Paris Culture RCP. Et donc maintenant, on s'intéresse à la chronique sortie ciné. À l'affiche des films sortis cette semaine, le drame Green Border, sorti ce mercredi 7 février, 2h32 durant lesquelles Agnieszka Holland vous plonge dans un synopsis profond et touchant. Ayant fui la guerre, une famille syrienne entreprend un éprouvant périple pour rejoindre la Suède. À la frontière entre le Bélarus et la Pologne, synonyme d'entrée dans l'Europe, ils se retrouvent embourbés avec des dizaines d'autres familles dans une zone marécageuse à la merci des militaires aux méthodes violentes. Ils réalisent peu à peu qu'ils sont les otages malgré eux d'une situation qui les dépasse, où chacun, garde frontière, activiste humanitaire, population locale, tente de jouer sa partition. Alors, faut savoir que les critiques sont bonnes. La Voix du Nord déclare que, je cite, le film dans un noir et blanc funèbre. Green Border est l'œuvre bouleversante d'une réalisatrice révoltée qui, sans prendre de gants, décrit l'horreur et ausculte les dilemmes silencieux. Fin de citation. L'Obs soutient, je cite, qu'Agnieszka Holland raconte en noir et blanc le martyre des migrants, la générosité des inconnus qui tentent d'aider, l'immonde cynisme du système. On sort de là éprouvé, secoué, révulsé, avec l'envie de foutre le feu. Le cinéma ici est l'arme de la révolte. Fin de citation. Et puis enfin, pour terminer, Le Figaro affirme qu'Agnieszka Holland filme une catastrophe humanitaire à 3 heures de Varsovie avec une rage froide. Fin de citation. Green Border, un film d'Agnieszka Holland actuellement dans les salles. Et j'en profite pour dire que, effectivement, la guerre en Syrie fait énormément de victimes. Il faut continuer à en parler pour dénoncer sans relâche ces atrocités, bien évidemment. Hier, j'étais justement à une diffusion de BFM TV du documentaire bouleversant Ligne Rouge de Fanny Morel, Kylian, 13 ans, la vie après Daesh. Évidemment, moi je vous invite à voir ce reportage. Plus de 300 enfants ayant vécu en Syrie sous le règne de l'organisation terroriste État islamique sont rentrés en France, une soixantaine en Belgique. Kylian, justement, est français et a vécu la moitié de sa vie sous Daesh. Il a 13 ans quand il est rapatrié de Syrie. Les équipes de Ligne Rouge retracent le fil de leur histoire en dessin animé et interrogent leur parcours de réinsertion. Comment maintenir ou recréer le lien avec leur mère? Comment les éloigner de l'idéologie violente transmise par un parent radicalisé? Ou encore comment trouver leur place dans des pays traumatisés par les attentats qui ont tardé à les rapatrier? Moi, je vous invite à changer un petit peu de registre pour s'évader en musique. On écoute une reprise, Royal Otis, qui a repris Sophie Elise Bextors. Le titre, c'est Murder on the Dance Floor. Je pense que ça nous dit à tous quelque chose dans le studio. En tout cas, j'ai des hochements de tête. Et ça, ça va vous tout dire. On écoute Royal Otis sur Radio Campus Paris. We'll be right back. Royal Otis, c'est un cover de Sophie Elix Baxters. Vous connaissiez, vous, ou pas?
Oui, grand classique.
Grand classique, ouais. Effectivement. Est-ce que tu connaissais qui chantait l'original?
Non, bah, on connaît toujours la chanson en général, mais on connaît jamais le nom
c'est vrai.
De l'artiste, malheureusement.
Malheureusement, donc c'est pour ça que je me permets de le redire, Sophie Elix Baxters. Et ça, c'était une reprise, un cover de Royal Otis que je vous invite à découvrir et redécouvrir, bien sûr, sur les plateformes ou sur YouTube, parce que je trouve que cet artiste, ce groupe, a un talent dingue. Nous, on continue maintenant avec la météo pour savoir un petit peu quel temps il va faire dans les prochains jours. Les filles, vous l'avez vu quand vous êtes arrivées, il fait quoi dehors, malheureusement? Il pleut.
Il pleut.
C'est horrible. C'est horrible, je suis entièrement d'accord. Et ça, ce sera jusqu'à demain. Toi, maintenant qui es monté sur Paris, je suis désolé de te l'annoncer. Demain après-midi, enfin, si tu te lèves tôt, si tu te lèves pas trop tard pour un dimanche, c'est-à-dire qu'entre 10h et 13h, ce sera gris, mais il pleuvra pas. Mais l'après-midi, les averses reviendront. Lundi, ce sera ensoleillé, mais ensuite, ce sera entre grisaille et pluie jusqu'à la fin de la semaine. Les températures, elles sont plutôt correctes. 10 pour lundi, 11, 14 mercredi, 14 pour le maximal également jeudi. Fin de semaine, ça redescend un petit peu. Vendredi, 12 degrés. Samedi, 11 degrés. Bien sûr, toutes ces prévisions sont disponibles sur météofrance.com. Tout de suite, nous, on part avec la chronique Sortie Musique, une chronique écrite par Thomas Kemar. Cette semaine a été marquée par deux des plus grandes cérémonies que le monde de la musique peut nous offrir. Premièrement, aux États-Unis, avec les Grammy Awards, nous évoquerons notamment le cas de Travis Scott, dont la défaite a été générée par de nombreuses réactions. Et puis les Victoires de la musique étaient également de retour hier soir pour une 39e cérémonie. Nous reviendrons ensemble sur les événements marquants de cette édition. Les Grammy Awards récompensent chaque année, depuis maintenant 1958, les artistes du monde entier. Alors, si les lauréats sont bien évidemment très heureux de leur victoire, ces compétitions font aussi des perdants et donc des déçus. C'était le cas de Michael Jackson, qui avait raté de peu le prix d'album de l'année avec son premier projet solo Off the Wall en 1980, ça remonte un petit peu. C'est d'ailleurs cet échec qui avait poussé le king de la pop à revenir 3 ans plus tard avec l'iconique album Thriller, on le connaît tous, qui lui ouvrira les portes de tous les records. Cette trajectoire, Travis Scott lui aussi en a rêvé. Le rappeur de Houston a connu une histoire similaire en 2018 lorsqu'il perd dans la catégorie album rap de l'année. Très frustré par cette défaite, il part en studio avec comme objectif de revenir avec un projet encore plus impressionnant. Près de 5 ans au travail ont été nécessaires à la création d'un nouvel album nommé Utopia, ce dernier étant censé propulser Travis sur les plus hautes marches de l'industrie. Utopia, c'est notamment ce morceau qui a peut-être marqué votre été, K-pop, en collaboration avec Bad Bunny et The Weeknd. Alors le dénouement de cette histoire, c'était donc dimanche dernier lors de la 66e cérémonie des Grammys. Pour cette édition et dans cette même catégorie d'album rap de l'année, Travis Scott était opposé à d'autres grands noms de la scène rap US comme Drake, 21 Savage ou encore Nas. Trêve de suspense, et comme nous l'évoquions précédemment, l'interprète du titre Goosebumps s'est une nouvelle fois incliné aux portes de la première place. 10 nominations depuis le début de sa carrière qui n'ont abouti à aucun prix. C'est trop pour Travis, qui n'a pas tardé à faire part de sa colère. Effectivement, le rappeur a en effet chanté lors de sa présentation sur scène They Slept Me On Me 10 Times, que l'on peut traduire Ils m'ont snobé 10 fois. Il a également tout simplement détruit la scène à coups de chaise, une situation surréaliste qui a créé le buzz sur les réseaux, et oui, mettant en opposition ses fans et les téléspectateurs plus mesurés qui ont jugé ses réactions inappropriées. Cette défaite rend tout de même un artiste heureux, c'est en effet Killer Mike qui a soulevé le trophée pour son album Michael, objectivement très bon, et qui a peut-être également été jugé moins expérimental. En tout cas, si on en croit la règle, rendez-vous donc dans 5 ans, où cette fois-ci, peut-être Travis décrochera le Graal. hier soir, a eu également à la scène musicale la 39e édition des Victoires de la Musique, une cérémonie qui a été introduite par Zazie et qui était pour l'occasion présidente d'honneur également. Elle a notamment offert à son auditoire un très très beau discours, une ode à la musique pleine de sincérité. Vianney a ensuite ouvert le bal, lançant alors les festivités. Les prestations se sont alors enchaînées, tout simplement mettant en avant différents styles musicaux, de la variété française à la pop plus électro, du rap français aux mélodies chantées en anglais. On notera notamment que la prestation remarquée de Julien Granel, qui a donné un véritable coup de peps à cette soirée au travers d'une prestation pleine de couleurs et d'énergie. « Plus rien de nous arrête », répétait-il. Et c'est finalement l'ambiance que nous pouvions ressentir à ce moment également dans la salle, tant son titre a animé le public.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs.
Mais la grande révélation de cette édition, vous l'entendez à l'instant, c'est bien évidemment Zao de Sagazan, cette jeune artiste de 24 ans qui a connu en 2023 un succès retentissant grâce à son album La Symphonie des Éclairs, déjà comparé à de grands noms comme Jacques Brel. Ce succès s'est matérialisé hier soir par 4 victoires dans les catégories Révélation féminine, Révélation scène, mais également Album de l'année et Chanson de l'année. Travis Scott n'a qu'à la contacter, peut-être elle a la recette du succès. Pour une première en tout cas, on peut dire qu'elle a frappé très fort. Cette chronique était écrite par Thomas Kemar, on pense à toi. Peut-être tu nous reviendras nous dire toi-même la prochaine chronique, en tout cas je l'espère. Pour ma part, je vais juste rajouter et mentionner Céline Dion quand même, puisque la chanteuse est venue remettre un trophée dans le plus grand des secrets lors des Grammy Awards. On a des fans ici de Céline Dion ou pas?
Oui.
Manon surtout, oui.
C'est quoi ta chanson préférée de Céline Dion?
Si t'en
as une, si t'en as une en tout cas. Toutes, tu les aimes toutes?
Ah oui,
vraiment
grande fan.
T'as pas vraiment une chanson qui sort du lot?
Titanic.
Titanic, ah la chanson de Titanic. My heart will go on, avec mon accent incroyable en anglais. ça va. Franchement, si on n'est pas mieux les uns que les autres, franchement, ça va. Tu kiffes aussi Céline Dion?
Ah oui. Ouais. Bah, grâce à Manon surtout.
En fait, je ne laisse pas du tout le choix. Moi, je passe à mon grand-père qui n'aime un peu moins, mais il en faut pour tous les goûts. Je vous emmène maintenant au théâtre. On découvre les pièces actuellement à l'affiche. Une sortie sympa et qui change pour le week-end. Cette semaine, dans notre sortie théâtre, on s'intéresse à la comédie Haute Tension, jouée au Café de la Gare à Paris, une pièce de Jean Del. Quand les problèmes de couple deviennent une affaire de famille, il y a de l'électricité dans l'air. Nicole est désespérée, Raoul, le frère de son mari, trompe sa sœur, mais avec qui? De surprise en surprise, ce quatuor explosif va nous rendre complices de l'adultère. Mais qui trompe qui? Alors c'est la question à laquelle vous pourrez répondre si vous avez la chance de voir cette comédie, aussi drôle que rancambolesque, moi je vous l'assure. Je vous donne la possibilité de venir voir ce spectacle, je vous offre 2 places et je vous explique tout ça après la rencontre avec les comédiens et la metteuse en scène, Anne Bouvier. Bonjour Anne Bouvier.
Bonjour.
Merci beaucoup pour cet entretien. Sans vouloir dévoiler toute la pièce, Raoul, le frère du mari de Nicole, se déplace hors scène durant la représentation et se glisse dans le public. Est-ce une manière de mettre en lumière son amour pour la philosophie? Car j'ai un peu l'impression qu'il se glisse dans le public comme il pourrait un peu se glisser dans sa grotte philosophique, d'une certaine manière.
Ça fait plaisir de voir que le message est passé, en tout cas, de ma mise en scène. Oui, c'était complètement l'idée, ce côté un peu maître de conférence, comme s'il était un peu dans un amphi, puisqu'il a tendance à aimer s'écouter parler, à aimer avoir un auditoire. Donc j'avais envie de pousser cette idée-là et de le faire donc carrément venir dans le public et s'adresser à tout le monde. En fait, je pense pour moi que ça fait partie intégrante de son personnage dès le départ. Il s'adresse un peu, à un moment, il dit je m'adresse aussi à tous les hommes qui sont dans la même situation. Donc, dès le départ, il est un peu dedans et dehors pour moi, dès qu'il arrive un peu dans la convention. Donc, il donne ce code-là dès le début du spectacle, comme quoi il peut s'adresser à tout le monde, qu'il a cette liberté-là aussi de parler à tout le monde. Il a plus de liberté que les autres personnages pour moi.
Faire rentrer l'un des personnages dans le public, c'est un peu un choix risqué. Ça peut pas perturber le spectateur aussi?
Oui, il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, parce que ça les coupe de l'histoire. Ils aiment aussi ce côté quatrième mur, rester dans une fiction. Ils ont l'impression de sortir de ça, de cette convention qu'on se donne toutes et tous un peu de façon tacite. Et moi, j'aime bien casser un peu les murs, surtout dans ce type de, dans ce registre un peu comédie, au Café de la Gare, on est habitué à un certain répertoire. Et j'avais envie justement de casser ça. En même temps, le Café de la Gare, c'est un lieu de grande liberté. Donc je me dis qu'aussi, c'est un lieu où tout est possible. Donc ça me paraissait cohérent. Mais je vois qu'il y a des gens dans la salle que ça déstabilise, qui n'aiment pas ça. Ça me fait rire. J'aime bien un peu remuer les gens. En plus, c'est un spectacle un peu interactif, notamment à la fin. On leur remet un cadeau et tout ça. Il y a un tirage au sort. Donc, ça me paraît un peu cohérent dans ce qu'on a eu envie de faire.
Et de manière générale, quand vous mettez en scène des pièces, vous aimez justement casser un petit peu les codes ?
Oui, j'aime bien essayer de mettre un peu de poésie et de casser les codes. Même si ça reste un lieu un peu sacré, j'aime bien désacraliser tout ça et être un peu en avance sur les spectateurs et les étonner un petit peu, les bousculer dans leurs habitudes.
Le décor est pur et délicat. Pourquoi avoir fait le choix d'un canapé et d'un fauteuil suspendu ? Simple choix ou c'est le fruit d'une longue réflexion ?
En fait, dans la pièce, il est inscrit que c'est un salon bourgeois. Et on en a tous marre, en fait, des salons bourgeois, on n'en peut plus. Et on s'est dit, bah, ça peut être chez des gens, et ça peut être aussi pour avoir une espèce de jardin d'hiver, ce qui ouvre un peu, qui nous met un peu dans l'extérieur, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, un peu comme notre personnage dont vous parliez, Raoul, qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et j'aime beaucoup l'idée de la suspension, parce que c'est, pour moi, le théâtre, c'est un peu un moment suspendu entre les gens, et ça donne quelque chose de plus aérien, et ça apporte une forme de poésie pour moi. Ça donne quelque chose d'aérien, de plus léger. Et puis, ça leur permet de jouer aussi avec ça. Ça apporte des contraintes et donc aussi de la liberté. Et ça apportait un peu aussi de la comédie.
Et moi, je trouvais presque que ça pouvait mettre en danger éventuellement les comédiens parce que c'est un décor qui est mouvant, mais je pèse mes mots. C'est pas non plus... ça bouge pas énormément, mais le si peu, je pense que ça pourrait éventuellement déstabiliser le comédien.
Mais c'est vrai, on n'est pas à l'abri d'un accident. Non, mais c'est vrai, il y a un peu des cascades dans le spectacle, donc il est possible qu'un jour ça pète et que ça tombe. Et c'est rigolo.
Vous êtes une femme de talent. On vous retrouve sur les planches, au cinéma, sur le petit écran ou même derrière la caméra en tant que metteuse en scène. Où est-ce que vous prenez le plus de plaisir finalement ?
Aujourd'hui, à la mise en scène, c'est ce qui m'éclate le plus, c'est ce qui m'épanouit le plus aujourd'hui. Ça dépend des périodes, j'essaie de faire un peu tout, de trouver un équilibre entre tout. Mais aujourd'hui, c'est là où je me sens la plus épanouie.
Le conseil n'entraîne pas la complicité, c'est ce que dit le marine Nicole en parlant d'un conseil qu'il aurait donné à son frère qui trompe sa femme. Santana Asunja nous exprime son point de vue en tant que Nicole et en tant que femme.
Alors, en tant que Nicole, c'est de la complicité quand même. Du coup, même le conseil. Puisque Nicole, elle est dans quelque chose de traditionnaliste, on va dire. Elle a ses traditions, même si elle aussi, elle a sa part de folie. Mais elle a quand même... elle aime être dans les clous, elle aime être dans la tradition. Donc pour elle, c'est dans tous les cas de la complicité. Pour moi, personnellement, en tant que femme... non, le conseil, c'est pas de la complicité. Il faut être clair avec les choses. On a le droit, en fait, d'accueillir la parole. Et je pense que c'est important d'accueillir n'importe quelle parole. Et c'est très important, en fait, d'accueillir la parole dans tous les cas. Donc, en fait, si quelqu'un vient vous voir et quoi qu'il vous raconte, en fait, on n'a pas le droit d'avoir de jugement. Puisque c'est humain. En fait, on est des humains. Donc, restons humains pour tout. Il n'y a rien qui est grave, à part si on parle de pédocriminalité, de viol et tout ça, là oui. Mais il n'y a rien sinon qui est vraiment très grave et qui ne permettrait pas d'avoir un conseil, en fait.
Pour ne pas parler par SMS et ainsi garder une discrétion absolue, Raoul et votre mari échangent à l'aide d'une playlist de l'adultère. Une playlist qui pourrait tout à fait être tirée d'un guide de l'adultère, tellement c'est gros. Elle est vraiment crédule, Nicole, finalement ?
Nicole, en fait... Déjà, elle est fière que son mari ait autant de jugeotes. Donc, elle se dit, déjà, c'est super, quoi. Il a un petit peu d'intelligence. Il a fait des choses intéressantes et marrantes. Je pense qu'elle est surtout là-dedans, Nicole. Elle va pas être... elle est choquée pour sa sœur, elle est triste pour sa sœur, mais en même temps, elle aime cet homme. Elle aime complètement cet homme. Et donc, du coup, quand il lui dit ça, elle en rigole presque, même si c'est horrible ce qui s'est passé pour sa sœur, en fait.
Au début de la pièce, Nicole, elle est fatiguée, elle est sans force. Le cours des choses fera qu'elle mènera elle-même finalement l'entretien, si je peux le dire comme ça. Où est-ce qu'elle puise toute sa force, cette pauvre petite Nicole, qui n'est finalement pas sans ressources ?
Dans l'amour sororal, donc avec sa sœur, elle aime tellement sa sœur. Si elle a à bout de force au tout début, c'est surtout parce qu'elle prend tout personnellement. Et que si sa sœur souffre, elle souffre encore plus. En fait, elle prend doublement la souffrance. Et donc, là-dedans, en fait, il y a de la rage aussi, puisqu'on n'a pas le droit de toucher à la famille. Donc il y a forcément une énergie, une force énorme, puisque pour elle, justement, comme elle est dans la tradition, on ne touche pas à la famille, on ne touche pas au couple, on ne touche pas à l'amour. Il y a des choses qui se respectent, et le principal, c'est de les respecter. Et il y a aussi quelque chose, c'est de respecter l'autre. C'est-à-dire que je pense que Nicole, elle est vachement là-dedans quand même. Non, mais c'est vrai, elle respecte vraiment... elle veut pas faire de mal à l'autre. Et là, ce qui est encore pire, c'est que sa sœur souffre. Et en fait, c'est vraiment ça son problème. Si sa sœur souffrait pas et que tout allait bien, c'est pas grave. Elle n'est pas dans le jugement, Nicole. Elle est vraiment en fait dans l'amour et le respect de l'autre. Nicole aussi, elle a ses chutes de tension... Donc, on ne sait pas justement si c'est de la fatigue émotionnelle, si elle a vraiment un vrai problème de tension, si elle veut justement aussi, quand c'est trop pour elle émotionnellement, est-ce que ce n'est pas comme ça que son corps réagit, ou est-ce que c'est fait exprès juste pour avoir son mari et lui dire maintenant stop, je ne veux plus parler avec toi, ou cette conversation est trop pour moi. Mais bon, bien sûr, il faut venir voir la pièce pour savoir comment et pourquoi Nicole a ses chutes de tension.
Pour terminer, en tant que femme et comédienne cette fois-ci, et non plus dans la peau de Nicole, est-ce qu'il est possible d'affirmer que l'amour existe même en présence d'infidélité donc ?
Bien sûr, heureusement. Oh là là, parce que franchement, l'amour, alors oui, d'accord, bien sûr, c'est génial d'être fidèle, et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un choix. C'est un choix, tout est un choix dans la vie. Et l'amour, c'est au-delà de tout ça. L'amour, c'est quelque chose d'absolu. Quand on aime quelqu'un, même s'il a fauté, même s'il a des défauts, même si... Ben justement, en fait, c'est ça l'amour, c'est qu'on a accueilli quelqu'un complètement.
Mais s'il a fauté, c'est pas justement plus difficile après de pardonner et de reconstruire quelque chose. Une fois quelque chose est cassé, c'est pas cassé pour la vie ?
Ça dépend vraiment de la relation. C'est-à-dire que ça dépend, il y a certaines relations où quand il y a quelque chose qui est cassé, c'est cassé pour la vie. Et il y a d'autres relations où pas du tout, ça va renforcer les liens. Et en fait, l'humain, il n'est pas ni noir ni blanc. En fait, c'est des millions de palettes de toutes les couleurs, vraiment. Donc, du coup, c'est pour ça. Et moi, ce que j'aime bien dans cette pièce, c'est qu'on n'est pas en train de juger. On ne juge pas l'adultère. On n'est pas en train de dire ça. On est en train de parler d'humains. C'est des humains qui sont ensemble, qui vivent ensemble depuis longtemps. Et y a plein de choses qui peuvent arriver dans une vie. Et on n'est pas là pour juger ce qui arrive dans la vie. C'est juste que ça arrive. Et on en parle.
Pour terminer, Shanaël, Maymoun s'est aussi exprimée. Elle est pétillante et pleine de joie. Et ça s'entend tout de suite.
Bonjour.
Dans l'Odyssée d'Homère, Pénélope était la femme d'Ulysse et la mère de Télémaque. Elle est le symbole de la fidélité. Évidemment, notre Pénélope nationale dans la pièce ne correspond pas parfaitement à cette définition. Comment est-ce que vous définiriez Pénélope ? Avec tout le respect que je lui dois à Pénélope.
Il y a bien intérêt, parce que Pénélope est incroyable, il faut venir la voir. Pénélope, c'est une amoureuse de l'amour. C'est une femme qui est tombée amoureuse d'un mec qui, malheureusement, n'est pas libre, quoi. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas l'aimer. Ça rejoint un peu aussi ce que tu posais comme question à Santana sur le fait de ce qu'on peut accepter quelqu'un avec tout ce qu'il est. Et oui, ça arrive et c'est aussi une transmission de la vraie vie. Et Pénélope, elle est comme ça, elle est tombée dedans, elle y va, elle lâche pas et elle a envie de la vivre, sa petite histoire d'amour, mais ce sera pas possible dans la simplicité, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'elle abandonne ce fameux homme marié. Et je trouve qu'elle s'en sort bien. Voilà, finalement, elle a... un peu ce qu'elle veut, mais pas entièrement. Mais elle est naïve, un petit peu, mais pas trop. Elle contrôle aussi un peu, parce qu'elle sait ce qu'elle veut aussi. Et voilà, je la qualifierais d'une amoureuse de l'amour.
Le frère de Raoul affirme que l'infidélité était insupportable. Lui, il se passe en victime. Très souvent, les manipulateurs pervers inversent les rôles au bout d'un moment et deviennent des victimes. Ça ne fait pas peur à Pénélope d'avoir des relations avec un manipulateur pervers ? Elle cherche juste à satisfaire son plaisir à elle, sans penser au-delà ?
Je pense que Pénélope ne s'est pas beaucoup posé la question de l'autre femme, mais elle s'est plus posé la question de, en effet, ce fameux homme dont Pénélope est amoureuse. Je pense qu'elle ne le voit pas forcément comme un pervers, mais plus comme quelqu'un de maladroit. Je pense qu'elle est plus manipulatrice que lui, sincèrement. Et je pense qu'elle a plus envie d'avoir une histoire que lui, avoir peut-être un petit plaisir à côté de sa relation d'homme marié. Donc voilà, je pense pas qu'elle le voit comme un pervers. En tout cas, moi, j'ai pas pris le rôle comme ça, comme un pervers manipulateur. Peut-être même au contraire. Je pense qu'elle a plus de poids dans la direction de où va cette relation que l'homme marié.
Le désir chez l'homme est nomade, c'est dit dans la pièce, et cela conduit à l'infidélité. Mais est-ce que ça veut forcément dire que la réponse, c'est forcément l'amour libre, donc ?
Je pense que nomade, c'est pas dans ce sens-là. Enfin, moi, je l'ai pas vu comme ça. Je pense que nomade, c'est... l'amour, il peut être partout, à n'importe quel endroit et avec n'importe qui. Et que finalement, c'est un beau message, mais je l'imagine pas... ça voudrait dire quoi ? C'est-à-dire que quand tu t'engages, tu pars sur le principe que l'amour est nomade, donc tu peux un peu fermer les yeux sur l'engagement que tu as signé. Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pense qu'on est libre chacun de s'engager ou pas dans une relation avec la personne qu'on veut, culturellement, s'il y a des différences, même dans les pays, même dans tout ce que tu veux. C'est plutôt ça, pour moi, l'amour nomade. C'est qu'il est partout, à n'importe quel moment, avec n'importe qui, sans aucune règle. Et des fois, ça fait mal, et des fois, c'est très cool.
Et si vous deviez dire un mot aux personnes qui hésitent encore à venir voir la pièce, ce serait quoi ?
Je pense qu'il faut venir voir cette pièce parce que pour le coup, ça parle à tout le monde, vraiment à tout le monde. On s'est déjà tous, il faut arrêter de mentir, retrouvés dans cette situation. N'importe quel rôle qu'il y a dans cette pièce, vous avez un moment été à cette place. Et il faut venir voir d'un point de vue extérieur parce que c'est très drôle. C'est aussi très drôle de voir la réaction du public quand on sent qu'ils se sentent très concernés par la situation. C'est assez marrant et puis c'est trop bien de faire partie d'un genre de mini complot ou stratégie. Au final, tu es totalement extérieur, on ne te demande pas de prendre plus parti que ça et puis tu passes un super moment, quoi. Et quoi que tu penses sur l'adultère, les infidélités ou quoi, tu rigoles et puis même ça peut te permettre de donner des conseils à tes potes.
C'est vrai, cette pièce va vous permettre de donner des conseils à vos potes aux tensions au Café de la Gare. C'est le moment, je vous fais gagner 2 places pour aller voir cette comédie. Pour remporter vos entrées, il suffit juste de vous rendre sur mon Instagram, Quentin-Perquis, P-E-R-Q-U-I-S. Le formulaire d'inscription se trouve en story à la une. Pour information, fin du jeu concours le 17 février prochain. Nos équipes contacteront le gagnant directement et vous pourrez utiliser ces places du 18 au 25 février, juste après la Saint-Valentin. Tu t'y connais, toi, en infidélité, Jeanne ?
Non, pas personnellement. Je vais éviter de révéler peut-être tous mes secrets comme ça. Non, je pense que ça peut toucher un peu tout le monde à différents degrés, mais...
T'as entièrement raison. T'as écouté donc, les interviews à l'instant. On parle d'infidélité. Et effectivement, comme tu le dis, ça touche tout le monde. Une comédie sur ce thème, ça te choque ou au contraire, tu trouves ça normal ?
Non, je pense que c'est un bon moyen de le voir différemment. Et si ça nous touche, nous ou quelqu'un qu'on connaît, de peut-être... pas dédramatiser, mais de le voir autrement et d'avoir un autre spectre, quoi.
Totalement, t'as entièrement raison. Je t'invite à t'inscrire, en tout cas à moi, pour le jeu concours. Si tu n'es pas sélectionné, bien évidemment, je t'invite à prendre tes places parce que cette comédie en vaut vraiment le coup. Tout de suite, on s'écoute Simony. Le titre de cette chanson s'appelle Pow, point d'exclamation. Je vous invite également à découvrir cet artiste sur Spotify, sur Deezer, sur les plateformes de manière générale. Il a un univers qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, moi, je vous le conseil, Simony Pau sur Radio Campus Paris.
Pas de rancune, je vis de mon cœur. Le cyanure est caché dans leur ego. Le chétan se cache dans les détails. La mets distillée dans le G-Pro. Me suis couché tard et le veto. Je récupère le chi dans le métro. Avant le revers de la médaille, je me fais baquer par mes échos. Je n'oublie jamais que j'ai les crocs. Les vampires me traînent, c'est des guétros. Je dois réveiller le Jedi pour ne pas que ce resserre les taux. Les ports sans briques, c'est des Lego. Cerveau troué par le bédo. On a le destin du bétail. Faut se méfier des hommes, pas des gécos. Quand j'éponge ta peine et tes pensées, toi ton vaussaire, c'est mon ghetto. Moi difficile, Guardiola sur le banc et au Ronnie Deco. Oh, HPI, HPE, ta qualité c'est mon défaut. Mask off, putain mais que ce monde est faux. Oh, combat les vraies choses, combat les névroses, combat les ports. On dans le vaisseau, coupe les réseaux, on a les codes. On voit les pesos, c'est tous les bezos, on va les pendre. On va les quechos, on va les tessos, on va les ports. Combat les vraies choses, combat les névroses, combat les ports. On dans le vaisseau.
réseau, qu'on veut les réseaux, on a les codes. On voit les pesos, c'est tous les pesos, on va les pans. On va les quichos, on va les tesos, on va les pans. Dans le noir j'attends que la crise passe. Émotion cachée du regard des gens. Je pleure seul dans la feuille, je mets la pistache. Le fond du sachet brûle ma trachée. Le schéma tragique, le joint qui stasse. Le regard fâché, la main qui tremble. J'ai le cœur taché par la vida. Deuxième mistake, je prends la distance. Croque-love d'une machine à la titane. Coup de boule, fin de carrière à la Zidane. Mais les sentiments sur de la drill, fois solide comme Eric Abidal. Seul Dieu reconnaît ma tristesse. Y en a qui fuient, y en a qui se tapent. Y a la vie rangée, y a la vitesse. Y a la vie de mouton, y a la vie d'âne. Y en a qui suivent, y en a qui stagnent. Y en a qui michetonnent, y en a qui taffent. Y en a qui se piquent, y en a qui se cache, y'en a qui s'envole, y'en a qui se crache. Je repars au combat, je connais mes forces. Force. Je connais mes faiblesses, je connais mes torts. Pour devenir un ange, j'ai dû couper mes corps. Combat les vraies choses, combat les névroses, combat les ports. On dans le vaisseau, couper les réseaux, on a les codes. On voit les pesos, c'est tous les pesos, on va les pans. On va les quechos, on va les tesos, on va les ports. Combat les vraies choses, combat les névroses, combat les ports. On dans le vaisseau, couper les réseaux, on a les codes. On va les pesos, c'est tous les pesos, on va les pans. On va les quechos, on va les tesos, on va les pans.
Dès la semaine prochaine, nous reprendrons les rencontres que nous avons faites depuis le début de l'année, les rencontres artistiques avec des chanteurs, des musiciens, des acteurs, des talents en somme. En attendant, moi je vous propose de redécouvrir Turi. Il était avec nous dans la rencontre le 11 novembre dernier à l'occasion du Hip Hop Symphonique. Bonjour Turi.
Salut.
Merci pour cette rencontre. On se retrouve dans un lieu bien spécial, l'auditorium de Radio France, à l'occasion du Hip Hop Symphonique. C'est la première fois pour toi. Est-ce que tu appréhendes un petit peu ?
Non, j'ai l'impression que je vais devoir payer un loyer ici parce que là, ce mois dernier, j'ai dû venir une dizaine de fois chez Radio France et je suis toujours bien accueilli. Alors non, malheureusement, je ne peux même pas te communiquer un stress parce qu'il n'y en a pas. Je suis toujours bien accueilli ici.
Pendant longtemps, tu t'es produit accompagné d'un live band, mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de partager la scène avec un orchestre aussi grand que celui de ce soir, l'Orchestre Philharmonique de Radio France ?
Absolument pas, absolument pas. Là, je suis dans une config jumelle des œuvres de mes héros, genre Jay-Z, il a déjà fait un truc comme ça, Kanye West, il a déjà fait un truc comme ça. Le fait de pouvoir le faire aujourd'hui, c'est un petit peu le teaser de ce dont j'ai envie en fait pour la suite de ma carrière et je suis trop content d'avoir la chance de participer au Hip Hop Symphonique. C'est trop légendaire genre.
Est-ce que tu penses avoir l'occasion de réitérer ce genre d'expérience ? Est-ce que c'est un projet futur pour toi de remonter sur scène accompagné d'un vrai orchestre ?
Ouais, carrément. Moi, j'aimerais défendre tout un album, tu vois, avec ces sonorités-là. Je t'ai parlé d'anciens héros, mais des gens que je considère comme des concurrents directs, comme Kendrick Lamar ou Little Sims, qui est une rappeuse british, flirtent déjà avec ces sonorités, se produisent sur scène avec ces sonorités-là. Et moi, je me dis, mais pourquoi pas un petit mec de Boulogne ? Ça va le faire.
Petit maître de Boulogne ?
Oui, un petit mec de Boulogne qui est capable vraiment de cohabiter avec la grande orchestration. Moi, je ne le dirais pas de moi-même, mais je ne sais pas si je suis humble. Je sais que je respecte les gens et que j'offre toujours une première chance. Tu vois, c'est comme ça que j'ai été éduqué, donc je le fais sans forcer, tu vois. Il y a des hugs, tout le monde, j'essaie de voir tous les musiciens, j'essaie de voir ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, les mecs en régie, les mecs qui font la sécurité. En fait, tu vois, on parle de grande orchestration, mais c'est plus que la musique. Je sais que c'est des tonnes d'heures de travail et que tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Alors c'est la moindre des choses de saluer les gens ou d'avoir une attitude respectueuse.
Le Hip Hop Symphonique est un moment vraiment à part, tant pour les artistes sur scène que pour le public. C'est une vraie pause dans le temps. Comment est-ce qu'on s'y prépare à ça ?
Ben tu vois, par exemple, tu disais est-ce que je suis toujours humble ? Eh ben la prochaine réponse, elle sonne pas si humble que ça, parce que j'ai l'impression d'être prêt depuis que je suis né. En réalité, pour ce genre de rendez-vous, tu me dis Stade de France après-demain. Genre, je serais un petit peu en panique parce que je vais me demander ce que je vais pouvoir défendre. Mais par contre, je serais très très content d'y aller et fougueux, quoi. C'est un truc que je perds pas. Et on confond très souvent l'ambition et je dirais pas l'égocentrisme, mais on est dans un pays où il faut pas trop afficher ses ambitions, sinon on a le rôle du parfait connard, tu vois. Moi, je pense que je les affiche, mais avec un sourire, et que ça passe mieux, du coup.
Je vais essayer de mieux te connaître, mieux comprendre ton processus de création. Quels sont les courants musicaux qui t'inspirent ?
En fait, moi, je transpire carrément les influences et les disques qui ont tourné chez moi. Les disques de ma mère sont les premières influences. J'ai été bercé à Queen, Michael Jackson, Prince. Après, il y a eu mes propres influences qui sont entrées en jeu. Lauryn Hill, Drake, Kendrick, Kanye. Je viens de Boulogne-Billancourt, donc forcément Booba, Salif, Zoxy, Danny Dan. J'ai été à bonne école, mais j'ai écouté tellement de choses, que ça soit du rock, du jazz. Et bizarrement, le gospel n'était pas très très présent, tu vois, chez moi. Mais comme le gospel c'est une musique immaculée, pure, j'ai choisi ce process sur certains titres pour faire passer de belles émotions, en tout cas les émotions du cœur, parce que je savais que c'était la musique qui permettait de ne pas mentir et qui m'obligeait à rester dans cette introspection, qui m'obligeait à raconter ma vie sans artifice.
Ça, l'introspection, on va en reparler après avec tes albums. Toi, parmi tous les artistes qui t'ont inspiré, tu en as énoncé quelques-uns, quel est celui qui t'a le plus marqué ?
En réalité, ça serait une petite fusion quand même. Entre, je dirais Gainsbrel. Tu vois, je dirais Gainsbrel. Un mélange de Gainsbourg et de Brel, parce que Gainsbar pour, ce truc très, très osé, le panache et l'insolence, parce que ma poésie, est quelquefois insolente et quelquefois violente, et je retrouve ça un petit peu chez Gainsbar et Brel, parce que pour l'importance qu'il a accordée aux mots et le respect qu'il avait des planches, tu vois, une prestation de Brel, aujourd'hui tu la regardes en 2023, tu te fais gifler comme si c'était un concert de, je sais pas moi, Doja Cat.
T'es allé voir la maison de Gainsbar ou pas?
Alors, c'est fou, parce qu'on m'en a parlé hier. Il faut savoir que j'ai une petite collection de livres sur Gainsbar. Et non, pas encore. Il paraît qu'il y a sa fille qui raconte l'histoire de son père. Donc, j'ai hâte d'y aller. Mais je viens de faire une date à Clermont-Ferrand, dans la rue Serge Gainsbourg. Okay. Et ma loge était aux couleurs de Gainsbourg. Les murs, il y avait des fresques de Gainsbourg, et je peux te promettre que ça m'a galvanisé. Genre, j'avais l'impression de mieux connaître l'artiste. Ok, on peut ne pas aimer l'homme, mais l'artiste force le respect.
C'était la première partie de la rencontre avec Thury. Rendez-vous tout de suite pour la suite avec son titre Là où on dort heureux.
Il y a tant de vie dans ta maison, j'aimerais que tes mains sèchent mes yeux, mais tu es parti. Là où on dort heureux, j'essaye de me dire que là-bas y a du beau monde et que tu ris un peu, comment t'es parti. Là où on dort heureux, si tu pouvais revenir une heure ou te prouver au ciel qu'il a tort, de t'arracher à moi, de t'arracher à moi. Je te cherche dans la nuit, mais les fantômes de la vie chantent si fort. Depuis tu n'es plus là, depuis tu n'es plus là. Il y a tant de vie dans ta maison, j'aimerais que tes mains sèchent mes yeux, mais tu es parti. Là où on dort heureux, j'essaye de me dire que là-bas y a du beau monde et que tu ris un peu.
comment t'es parti. Là où on dort heureux, si tu pouvais revenir une heure ou te prouver au ciel qu'il a tort de t'arracher à moi, de t'arracher à moi. Je te cherche dans la nuit, mais les fantômes de la ville chantent si fort. Depuis tu n'es plus là, depuis tu n'es plus là.
Tu sais, j'attends que mes démons me délivrent, qui je réclare droit. Si je veux te revoir, si je veux te revoir. Parfois je retrouve sur le visage de mon fils un petit peu de toi. Vous avez le même regard, vous avez le même regard.
Là où l'on dort heureux, c'était Thury sur Radio Campus Paris. Cette musique est extraite de son album Papillon Monarque. On continue tout de suite avec Thury dans la seconde partie de la rencontre.
Un moment dans ta vie, tu n'as non pas laissé de côté la musique, mais je pense que tu l'as mise un petit peu au second plan. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part ou pas ?
Ouais, ça a été une volonté de ma part parce que j'étais une forme hybride entre l'éducateur spécialisé et le prof de musique. Et j'avais l'impression de sauver des gens qui en avaient besoin. Et je me suis rendu compte que durant les 8 ans où j'ai travaillé là-dedans, que ça allait beaucoup moins vite que 2 ans de musique. J'ai aidé beaucoup plus de gens et très rapidement avec ma musique. Donc le choix est vite fait.
Tu as ensuite sorti Bleu Gospel en 2021, un album qui se veut vraiment introspectif. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça d'ouvrir son cœur à la plume ?
Absolument pas. C'est de l'art-thérapie. Il y a art, mais il y a thérapie aussi. Et je sais pas, pour les gens qui vont écouter ou lire cette interview, je pense qu'on va tous s'accorder comme les violons d'Issam Krimi pour dire que le truc le plus dur, c'est d'appeler. C'est de prendre le premier rendez-vous. Et donc Bleu Gospel, ça a été mon premier rendez-vous avec l'introspection. La première fois que je racontais ma vie. Donc non, c'est quand même quelque chose de difficile et de drainant.
Plus récemment, tu as sorti Papillon Monarque, un album récompensé par le prix Joséphine 2023, si je ne dis pas de bêtises. Le jury était présidé par Eddy de Préto. C'est une fierté de voir son travail remarqué et primé.
C'est une fierté, pas pour moi, parce que moi, au départ, quand je fais ça, c'est pas que je m'en fous un peu, mais je pensais déjà pas le gagner, ce truc-là. J'étais sûr de ne pas le gagner. Et ensuite, j'ai compris que la mission était plus grande que moi et que je représentais vraiment toute ma discipline, le courant rap, le courant hip-hop, et que c'était le moment de faire la paix, entre guillemets, avec les autres genres. Et moi, j'ai toujours été pour le mélange des styles, tu vois. Ma musique est trop hybride, il y a du rap, il y a de la variété, il y a de la pop, il y a du gospel, du R&B. Donc, je voulais faire ce bisou-là aux autres genres publiquement. Et avoir ce prix-là, ça m'a permis de le faire.
La musique de cet album est incroyable, elle est belle, elle est bercée par un rythme hip-hop, mais à la fois, aux limites quand même du gospel ou encore du jazz parfois. Tu te livres dans cet album. Qu'est-ce que tu souhaites faire passer à travers cette nouvelle création ?
Alors, Papillon Monarque, je souhaite être leader par l'exemplarité en montrant que c'est difficile d'être parfait. En fait, c'est impossible. Et qu'exposer son flanc, exposer sa sensibilité, ses défauts, ça peut que aider à la déconstruction et du coup nous aider à évoluer. Tu vois, c'est Papillon Monarque, c'est embrasser vos différents traits de caractère et excusez-vous quand il faut s'excuser, mais soyez fiers quand il faut défendre une bannière. C'est aussi simple que ça.
Pour terminer, est-ce que tu as des projets en cours, des idées de duo ou des idées de single ?
J'ai plein d'idées, plein de projets qui sont en cours. Le label travaille bien, Foufoune Palace, Luigi travaille. Je travaille aussi, il y a des trucs en commun qui vont arriver Et j'ai hâte juste que le public entende de nouvelles sonorités, de nouvelles facettes de ma personnalité et continue à suivre l'histoire de près.
Mille merci déjà pour le temps que tu m'as accordé. Un mille merci pour ton honnêteté et je pense ta sensibilité qui est incroyable et je t'en prie, ne la perds pas. Et puis surtout, bon courage pour ce soir.
Je vais tout faire pour et j'espère que vous allez vous amuser autant que moi ce soir.
C'est sûr.
Okay, merci beaucoup pour cette interview, c'était hyper agréable.
Turi a tout déchiré au hip-hop symphonique d'ailleurs. Vous pourrez retrouver cette rencontre avec Turi sur Spotify en recherchant le nom du podcast qui s'intitule tout simplement La Rencontre. Et justement, on en a fait plein des interviews. Vous pouvez profiter si vous n'avez pas quoi faire demain, dimanche. On a rencontré Boom, le bassiste d'Angèle. On a rencontré Eddie DeMart, le performer. On a rencontré Sarah Costa également au Delta Festival. Donc Turi qu'on vient d'entendre. On a une rencontre également avec Marco Ferreira, jeune talent incroyable. Colt également, que vous devez peut-être connaître sur les réseaux sociaux. Enfin, bref, allez les voir, allez les écouter, allez découvrir leur univers. Ils sont tous plus talentueux les uns que les autres. Et on revient en tout cas dans deux semaines avec d'autres talents. Surprise, je ne vous annonce pas qui pour l'instant. Rendez-vous sur Instagram pour savoir de qui il s'agit. Tout de suite, on s'écoute Ami Me Falta Algo de Quevedo sur Radio Campus Paris. Une petite note latine pour se lancer dans ce week-end.
Mami, me falta algo. En la gira, en el hotel, en el avión. Mami, me falta algo. Y ahora ando en silencio, fumando un cigarro. Mami, me falta algo. Cuando no estás, no soy yo. Me falta el aire cuando pienso aquellos momentos. No éramos distintos, solo eran otros tiempos. Cuando viajo por compromiso y eventos, me salen recuerdos en las redes de cuando hablamos en el Corona. Paseamos por tu zona, la luna se veía entre el hueco de los edificios. Cuando decías que todavía preferías estar sola y cuando juré que dejaría mis vicios, el alcohol y el parque. Tú conoces mis puntos débiles, los momentos frágiles, yeah. Todas las veces que yo terminé llorando, rezándole a mis ángeles. Y tú me acostumbraste a ti, haciéndome cafuné. Te enamoraste de un G, sonando de fondo. Aquellas noches no fueron bonitas, pero sí mágicas. Una canción pa' dedicarte solamente puede ser trágica. La fama no llena ni la mitad. Que las veces que vemos Netflix fallamos al alba. La luna nos respalda, las noches son frías. Si no estamos juntos todo me duele el doble. Quiero que seas tú quien a mi hijo ponga nombre. No sé cómo explicarte que si no estás siento que falta algo. En las giras, en el hotel, en el avión. Mami, me falta algo. Y ahora en silencio fumando un cigarro. Mami, me falta algo. Cuando no estás, no soy yo. Conciertos que van ligados un after. Dormí 2 horas anoche, pero habrá que acostumbrarse. No tengo hueco pa' llamar ni a mamá ni a mi parce. Me pesan las piernas cuando no te siento a mi alcance. Por eso hace tiempo que me tiene mal, yeah. La cama se me hace grande y ya ni duermo, no es normal. Pero me hace bien, mami, tú estás bien cuando tú estás cerca. Pero esta ansiedad aprieta y te escribí esta letra, bebé, porque me falta algo. En la ira, en el hotel, en el avión, mami, me falta algo. Lloras de silencio fumando un cigarro, mami, me falta algo.
Mais falta algo, Quevedo sur Radio Campus Paris. J'espère que vous avez kiffé ce son. Tu connaissais ou tu connaissais pas, Jeanne ?
Pas du tout, c'est une découverte.
C'est une découverte, moi je l'avais découvert, c'est Mabé, ma buddy. Si tu m'entends, Mabé, je te fais un gros big up. Gracias por todo lo que has hecho para mí. C'était une, comment on appelle ça, ma buddy au Pérou. Elle était incroyable, elle me manque énormément, comme tous ceux que tous les amis que je me suis fait au Pérou. Bref, on s'en fiche, ma vie. Et ils m'ont fait rencontrer cette musique, d'où le fait que je veuille vous la faire découvrir également à mon tour tout de suite, Sortir à Paris. À Paris, comme chaque semaine, de nombreuses sorties s'offrent à vous. Aujourd'hui, je vous parle du festival Essonne en scène, une programmation de qualité, un cadre exceptionnel, un esprit familial et populaire. Ce sont les ingrédients qui font de ce festival un événement unique et accessible à tous. Cet événement se déroule dans le domaine de Chamarandes, au cœur de l'Essonne, un lieu de promenade bucolique chargé d'histoire et parcouru de sculptures d'art contemporain. La programmation est sortie mercredi soir. On y retrouve Mika, Oshi, Étienne Dao, Matmata, Kyo, Santa ou encore Clara Isée. La billetterie est ouverte, foncez, ce festival se déroulera les 30 et 31 août prochains. Vous connaissiez, vous, le festival Essonne en scène ?
Pas du tout, mais ça donne envie.
Eh ben, tu vois, c'est l'occasion d'y aller justement. Il y a des noms qui te parlent, il y a des noms qui te donnent envie ou pas ? Matmata, peut-être, Kyo ?
Un peu tout.
Un peu tout, okay.
Ouais, ouais, non, c'est cool, c'est plein de choix pour tout le monde. Donc
Cool, et Manon, toi, j'imagine que tu connaissais pas parce que t'es de Bretagne ? Effectivement. Tu connaissais le festival du Roi Arthur, en revanche ?
Bien sûr.
On a des souvenirs au festival du Roi Arthur, parce que beaucoup trop. En fait, je devais dormir chez sa grand-mère pour tout vous raconter. Et ma mère, qui vient le lendemain, toque à la porte. Mais sa grand-mère, à Manon, n'était pas au courant que je dormais là. Alors, ma mère toque à la porte. Faut s'imaginer, hein, ça rigole pas. Bonjour, Quentin, je veux récupérer mon fils. Et la grand-mère de Manon qui répond, mais non, il y a personne. Il n'y a pas de garçon, c'est exactement ça. Ma mère qui commence à paniquer, puis t'as Manon qui débarque en courant. Ah, c'est bon, il y a le Quentin qui est
dedans. Mamie, il est là.
C'est ça. Il était là et j'ai dormi. Tu m'as super bien accueilli parce que j'ai dormi...
Sur le tapis.
C'est de ma faute.
Oui, c'est de ta faute, c'est vrai. Franchement, merci. Hein. Franchement, les potes, c'est comme
super
ça.
L'accueil.
Top, super l'accueil. Chez les Danois, pardon, désolé, mamie, je suis désolé.
Ça donne envie de revenir. Hein.
On coupera au montage. À l'occasion, si vous voulez sortir ce week-end, je peux vous donner d'autres idées. À l'occasion du nouvel an lunaire et notamment chinois, de nombreuses animations sont prévues au jardin d'acclimatation jusqu'à demain. Spectacles, danses, stands créatifs et défilés en tenue traditionnelle sont au programme. Pour les artistes en herbe, de nombreux stands vous offrent la possibilité et l'opportunité de créer de beaux souvenirs de cette fête. Apprenez par exemple à reproduire des sinogrammes dans les ateliers calligraphiques. Maîtrisez également l'art de la création de fleurs en spirale, si ça donne envie. Découvrez le papier découpé chinois. Confectionnez également vos propres lanternes avec des artisans. Ou encore, vous pouvez même mettre au défi votre famille et amis en participant à des jeux ancestraux. Pour célébrer en tout cas l'année du dragon, ça se passe au jardin d'acclimatation et jusqu'à demain. Enfin, je vous parle du carnaval de Paris. Et oui, il revient pour sa 27e édition. Cette année, le rendez-vous est demain, dimanche 11 février, sur le thème de la poésie, de la peinture et de la philosophie, avec un hommage spécial à Basile Pachkov, prévu de 13h à 20h. Le départ s'effectue place Gambetta et l'arrivée place de la République. L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci les filles d'avoir été là. C'était cool ou pas ?
Très cool.
C'est vrai, vous reviendrez peut-être alors ?
Ah bah, si tu nous invites.
En tout cas, vous êtes les bienvenus, je vous en prie. Merci beaucoup également Maxime à la réalisation, vraiment je te remercie. Je vous rappelle que vous pouvez gagner 2 places pour aller voir la pièce théâtre Haute Tension au Café de la Gare. Pour emporter vos entrées, il suffit de vous rendre sur mon Instagram Quentin-Duba-Perki. Le formulaire d'inscription se trouve en story à la une, story actuellement, mais story à la une jusqu'au 17 février prochain, date à laquelle vous pouvez participer à ce jeu concours. Bien évidemment, nos équipes contacteront le gagnant directement et vous pourrez utiliser ces places bien sûr du 18 au 25 février. On se retrouve nous dans 2 semaines, le 24 février. N'hésitez pas à suivre l'actu de Paris Culture sur les réseaux, sur Instagram Quentin-Perki ou sur TikTok Perki Quentin, c'est l'inverse. Voilà. Sur TikTok, vous pourrez notamment voir tous les podcasts de La Rencontre, tous ces podcasts qui permettent de rencontrer des artistes, des chanteurs, des acteurs, des musiciens. Ils sont tous très talentueux. Le podcast s'intitule La Rencontre. Vous pouvez bien sûr tous les voir sur Spotify, mais une partie sont disponibles sur TikTok et Instagram. À tous, je vous dis, prenez soin de vous. Bye bye.